Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il est aujourd'hui des sujets dont on ne peut pas parler sans courir de risques réels. L'islam en est un, religion sainte pour certains, religion sœur pour d'autres. L'islam est-il seulement ce que l'on croit connaître de lui? Dieu a-t-il parlé à Mahomet? Que dit vraiment le Coran? Comment les musulmans se situent-ils par rapport à ces deux derniers? Pourquoi si peu de voix, même chez les chrétiens, osent-ils une parole vraie sur l'islam? Annie Laurent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'invité de Vivante Église ce matin. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'islam pour tous ceux qui veulent en parler », avec entre parenthèses ce sous-titre « Mais ne le connaissent pas encore », paru aux éditions Artege. Voilà pour cette émission qu'on a intitulée « L'islam, le vrai du faux ». Vous faites partie des voix en France qui osent une parole différente sur l'islam. Elles ne sont pas si nombreuses que ça, sauf erreur de ma part, en tout cas chez les chrétiens. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur l'islam. Le premier, vous me disiez ça en préparant l'émission, c'était donc en 1996, « Vivre avec l'islam, point d'interrogation, réflexion chrétienne sur la religion de Mahomet ». Et là, donc, vous publiez ce livre. Je dis tout de suite qu'il est préfacé par Rémi Brague, rien que cela, qui est donc une grande figure intellectuelle française, qui salue votre courage et dit qu'il y a souvent sur l'islam en France, et il dit ça pas que des chrétiens, beaucoup de paresse intellectuelle. Qu'est-ce que vous diriez d'abord sur ce sujet ?
Oui, c'est vrai, je constate aussi, comme Rémi Brague, qu'il y a de la paresse intellectuelle. On ne veut pas faire l'effort d'entrer dans la logique doctrinale de l'islam, par peur de déranger, par peur de déplaire aux musulmans. Enfin, je ne sais pas trop quelles sont les causes, mais c'est un constat. Moi, en réalité, j'ai découvert ce que je viens de dire après avoir passé 5 ans au Liban. Revenu en France, j'ai découvert la grande ignorance des catholiques de France sur l'islam, et je me suis mise à travailler beaucoup le sujet, et j'ai d'ailleurs tout de suite obtenu des soutiens, par exemple de l'académicien Roger Arnaldez, qui est décédé maintenant, le père Jacques Jomier, que les Toulousains ont bien connu, ce grand dominicain islamologue qui avait vécu 40 ans au Caire, et qui m'ont soutenu dans ma démarche, dans mon désir d'avoir un discours de vérité. Et voilà comment les choses se sont mises en place. À l'époque, j'avais aussi obtenu le soutien du cardinal Ratzinger, à qui j'avais envoyé ce livre que vous venez de citer, « Vivre avec l'islam ». Et de fil en aiguille, j'ai fait mon chemin, si vous voulez. Les choses changent dans l'Église, il n'y a aucun doute à ce sujet. On commence à avoir le souci d'avoir davantage de clarté concernant l'islam dans tous ses aspects. C'est ma démarche. Hein. J'évoque la question de l'islam, non seulement sur le plan doctrinal, mais des faits, de l'histoire.
Je propose qu'on se lance dans le propos. On pourrait dire aussi que vous êtes une bonne connaisseuse des chrétiens d'Orient, mais on pourra peut-être en reparler à la fin de l'émission en donnant le titre de l'ouvrage que vous venez aussi de publier. Commençons par le début, le Coran. Certains le savent, le Coran est incréé pour les musulmans. Et dans votre ouvrage, vous dites la chose suivante. Dans sa forme matérielle, le Coran est la copie conforme d'un original, la mère du livre, je vous laisserai dire ça en arabe, conservée auprès d'Allah de toute éternité. Expliquez-nous
oui.
Cela.
Alors en arabe, c'est el Kitab, la mère du livre, el Kitab. Pour les musulmans, Dieu parle aux hommes à travers un écrit, et non pas à travers une personne vivante, comme pour nous les chrétiens, notre Seigneur Jésus-Christ, le verbe de Dieu. Donc, pour les musulmans, c'est une parole écrite qui a prévalu de toute éternité auprès de Dieu, qui est en Dieu, si vous voulez. Alors, la logique musulmane dit que Dieu parle régulièrement aux hommes, pardon, à travers un écrit, et qu'il y aurait d'abord eu la Torah, mais la Torah qui est déjà avec le même contenu que le Coran, la Torah donnée au peuple juif par l'intermédiaire de Moïse, qui est un prophète dans le Coran. Et puis, la logique est la suivante, c'est que les Juifs sont accusés d'avoir falsifié la Torah, on ne sait pas trop comment d'ailleurs. Ensuite, Dieu envoie un autre prophète, Jésus, Aïssa, dans le Coran, Aïssa qui n'a pas de sens, comme pour nous les chrétiens. Jésus, c'est Dieu sauve, de l'hébreu Yeshua, et de l'araméen Yassou, l'araméen que les chrétiens d'Orient utilisent toujours lorsqu'ils prient Jésus aujourd'hui. Et donc les chrétiens sont accusés d'avoir falsifié l'évangile, que Jésus était censé apporter pour corriger les erreurs commises par les Juifs dans la Torah. Alors, les falsifications dont on accuse les chrétiens, c'est évidemment le Dieu trinitaire, la création de l'Église, Jésus fils de Dieu, etc.
Sur ce point, est-ce que vous pouvez apporter une précision? Parce que pour ceux qui savent ce que vous venez de préciser, comment est-ce que les musulmans justifient, datent ou sourcent cette falsification des Écritures? Parce que quand on lit le Coran, on voit qu'il y a quelque part, en fait, comme pas des extrêmes, enfin, voilà, des inspirations, on va dire, issues de l'Ancien Testament, voire parfois du Nouveau Testament. Comment les musulmans justifient-ils cela? C'est juste Mahomet qui a dit que cette falsification était à croire?
Pour les musulmans, Mahomet n'est pas l'auteur du Coran. C'est Dieu le seul auteur du Coran. Alors, il y a des emprunts bibliques. On a dans le Coran des noms de personnages qu'on trouve effectivement dans l'Ancien et beaucoup moins dans le Nouveau Testament. Il n'y en a que 4 du Nouveau Testament. Mais ils sont déformés pour s'inscrire dans une logique qui n'est pas la logique biblique. C'est pour ça, je m'entends tout à fait bien avec le Père Jourdan sur ce point-là.
Donc le Père Jourdan, c'est un autre grand spécialiste de l'islam.
Oui, eh bien, il est faux de dire que l'islam est une religion biblique. L'islam ne s'inscrit pas dans la révélation biblique. C'est une religion qui a été, à mon avis, construite par des hommes avec une autre logique. Donc je reviens à l'enchaînement par rapport à votre première question. Donc les Juifs auraient falsifié la Torah, puis les chrétiens auraient falsifié l'Évangile, toujours au singulier, parce que du point de vue musulman, Dieu ne peut parler que d'une seule manière. Le fait qu'il y ait 4 évangiles canoniques accrédite à leurs yeux la fausseté du contenu des évangiles. Donc. Et puis, Jésus aurait été envoyé aussi pour annoncer la venue du dernier prophète, Mahomet, avec le Coran, immuable, intangible, éternel, qui récapitule ce que Dieu aurait donné aux hommes dès l'origine de la création. Et certains auteurs musulmans, et pas des moindres, disent que c'est saint Paul le grand falsificateur. On accuse saint Paul d'avoir introduit ces falsifications dans la doctrine chrétienne.
Voilà. Est-ce que vous pouvez repréciser ce qu'a comme conséquence le fait que le Coran soit incréé?
Mais tout à fait, bien sûr. Alors, au départ, il n'en était pas ainsi. Il y avait des débats dans les premiers siècles de l'islam, notamment en Mésopotamie, où les musulmans qui s'étaient installés là, avec le califat de Bagdad, se confrontaient intellectuellement avec des chrétiens. Les chrétiens étaient très nombreux en Mésopotamie, au 7e, 8e, 9e siècle. Un calife avait d'ailleurs pensé qu'il était bien de suivre le courant des Moutazilites qui préconisaient que le Coran soit défini comme une œuvre inspirée, un peu comme on le fait dans l'Église avec la Bible inspirée. Et puis, les Moutazilites disaient aussi qu'il fallait laisser de la place au libre arbitre, à la raison, etc. Bon, ça semblait prendre. Et puis, des émeutes ont eu lieu à ce moment-là, au 9e siècle. Ça a fini au 11e siècle par la définition stricte, dogmatique du Coran incréé. Donc, Dieu seul en est l'auteur. Et la conséquence pratique, c'est que cette décision a contribué à verrouiller la pensée dans l'islam. Jusqu'à aujourd'hui, on en est là. Il n'y a aucune autorité investie d'un pouvoir d'interprétation authentique qui soit en mesure de sortir de ce Coran incréé et de permettre des évolutions, si vous voulez, doctrinales, des adaptations à la grande question que pose la modernité aujourd'hui. Là, on est en face de deux obstacles structurels pour l'évolution de l'islam. Le Coran incréé et l'absence de magistère authentique, l'équivalent d'un pape, si vous voulez.
On y reviendra. Si on avance sur les fondamentaux comme ça, parlez-nous un petit peu de Mahomet. Vous dites en fait qu'il y a comme une biographie officielle de Mahomet qui s'appelle la Sira.
Oui.
Quand a-t-elle été écrite et que dit-elle à grands traits du prophète?
Alors en réalité, elle a été bien écrite après sa mort. En réalité, il y a plusieurs Sira, il y a plusieurs biographies, mais il y en a qui sont plus fiables que d'autres, mais c'est bien après sa mort qu'elles ont été rédigées. On ne sait pas trop par qui d'ailleurs, hein. Les noms changent selon les sirahs. Mais en tout cas, ces sirahs ont pour but de faire l'apologétique de Mahomet. Maintenant, on est à une époque très intéressante sur le plan intellectuel, parce que des savants, en dehors de l'espace musulman, découvrent beaucoup de choses concernant les origines de l'islam. Certains vont jusqu'à dire que Mahomet n'aurait pas existé, que ce serait une création imaginaire pour légitimer la domination politique des Arabes, si vous voulez, sur le monde. Il fallait lui donner une dimension religieuse pour que ça ait davantage de force sur les personnes. C'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il n'est pas inexact de qualifier l'islam d'idéologie religieuse. On va en reparler, je crois. Mais Mahomet est considéré comme le grand prophète, celui qui scelle la prophétie.
Le beau modèle, vous dites, dans votre ouvrage.
Oui, le sceau des prophètes, celui qui scelle la prophétie, est le beau modèle, en effet. C'est le Coran qui le dit. Et dans le Coran, Dieu dit « Obéissez à Dieu et à son prophète ».
Donc ça veut dire que les musulmans sont invités à imiter Mahomet.
Tout à fait. Mahomet. Et c'est pourquoi la sunna, c'est la tradition qui s'attache à Mahomet, a une importance considérable dans le domaine de la loi, de la charia musulmane. C'est la deuxième source du droit.
Voilà, expliquez un peu plus du coup ce qu'est la sunna et en quoi elle vient prolonger le Coran.
Voilà, alors la sunna,
le compléter.
Oui, la sunna, ça veut dire tradition attachée à Mahomet. En fait, les musulmans, sur plusieurs siècles, ont rassemblé des récits qui ont été transmis par ce qu'on appelle une chaîne de transmetteurs, des témoins, direct ou pas direct, puisque ça a duré plusieurs générations. Un tel m'a dit qu'il avait entendu du compagnon du prophète tel comportement en telle circonstance. Donc les récits sont très importants et on explique, chaque transmetteur a expliqué ce que Mahomet avait fait, n'avait pas fait, avait dit, n'avait pas dit en telle ou telle circonstance. Et étant donné le statut de Mahomet dans le Coran, tout ça est normatif. Et donc, à partir de ce moment-là, on considère la sunna comme la deuxième source du droit musulman, c'est-à-dire elle complète ce qui manque au Coran. Je vous donne un exemple. En matière de liberté de conscience, le Coran, évidemment, fustige les musulmans qui renoncent à l'islam, leur prédit l'enfer, mais rien n'est prévu au niveau de la loi terrestre comme sanction à l'apostasie. Alors Mahomet, lui, dans la sunna, on trouve cette phrase, cette sentence même, il aurait dit « Celui qui quitte la religion, c'est-à-dire l'islam, tuez-le ». Donc c'est sur le fondement de cette phrase que la loi musulmane, pas de manière générale, mais dans pas mal de pays musulmans, prévoit la peine de mort pour l'apostat, vous voyez.
Vous citez un autre exemple, c'est que la codification des 5 prières quotidiennes se trouverait dans la sunna et non dans le Coran.
Oui, exactement, en effet, oui, oui. Ben oui, c'est un exemple intéressant aussi.
Dans votre ouvrage, évidemment, on ne peut pas parler de tout. Il y a un sous-chapitre qui s'intitule « Quand le Coran se contredit ». Est-ce que vous pouvez prendre développer quelques-uns des items que vous citez ? Par exemple, commençons sur la liberté religieuse. Donc, je citerai une sourate « Quiconque le veut qu'il soit croyant et quiconque le veut qu'il soit infidèle ». Et puis une deuxième, ceux qui parmi vous s'écartent de leur religion et qui meurent incrédules, voilà ceux dont les actions seraient vaines en ce monde et dans la vie future, voilà ceux qui seront les hôtes du feu et ils y demeureront immortels.
Oui, il y a aussi un autre verset que les musulmans citent souvent dans des rencontres officielles de dialogue islamo-chrétien, pas de contrainte en religion. C'est 2:256, sourate 2, verset 2. Mais justement, tout se contredit dans tous les domaines. Alors,
prenez d'autres exemples, par exemple sur la mission.
Oui.
Est-ce que vous avez souvenir des contradictions ? Est-ce que vous pouvez les citer ? Vous avez cité la sourate 10, 99, 100 et 9 et 5. Alors, je peux les citer si vous voulez.
Oui, 9, 5, c'est ce qu'on appelle le verset de l'épée. Hein,
Après que les mois sacrés se seront écoulés, tuez les prosélytes. Partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Mais s'ils se repentent et s'ils s'acquittent de la prière, s'ils font l'aumône, laissez-les libres. Et l'autre, c'était « Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants ? Il n'appartient nullement à une âme de croire si ce n'est avec la permission de Dieu. »
Oui, ben voilà, de bons exemples de contradictions. Donc comment s'y retrouver ? C'est ça le problème. Comme il n'y a pas de magistère authentique, les savants musulmans, très tôt dans l'histoire, ont défini la doctrine de l'abrogeant abrogé. Alors, il y a dans le Coran... Ce qui veut dire que certains versets sont censés abroger d'autres versets sur tel ou tel sujet. Hein, le prosélytisme, les libertés, etc. Même la consommation d'alcool. Alors, on a rétabli l'ordre chronologique des versets, des sourates et des versets du Coran pour savoir qu'est-ce qui est abrogé et qu'est-ce qui est abrogeant.
Parce qu'en fait, la dernière abroge la précédente, c'est ça ?
Oui, selon notre logique à nous, cartésienne, en Occident, c'est évidemment la dernière qui abroge la plus ancienne. Alors, souvent, les musulmans nous disent, voyez, nous avons la doctrine de l'abrogation. Mais ça, c'est un peu de l'enfumage, parce que, en réalité, si on suit cette logique chronologique, eh bien, ce sont les plus récents qui abrogent les plus anciens. Or, ce sont les plus récents aussi qui sont les plus durs, les plus intolérants, les plus intransigeants. Par exemple, celui que vous avez cité, 9-5, c'est le verset de l'épée hein, qui fonde la doctrine du djihad. C'est la sourate 9 dont il fait partie, c'est l'avant-dernière considérée comme révélée par les musulmans. Donc, par contre, ceux qui sont datés de la Mecque sont beaucoup plus ouverts, si vous voulez, aux autres. Alors, si on suit l'histoire de Mahomet, telle qu'elle nous est transmise, on se rend compte qu'à la Mecque, pendant la première période de sa prédication, de 610 à 622, Mahomet n'était pas bien accueilli par ses compatriotes et il avait intérêt à ménager un peu tout le monde. Par contre, en arrivant à Médine, de 622 à 632, date de sa mort, là, il s'est érigé non seulement comme prédicateur, mais aussi comme chef d'État, chef législatif, il est devenu polygame, etc. Donc, il a mis en place un système juridique et là, il s'est affirmé comme chef et c'est de là que datent les versets les plus durs. Donc l'abrogation n'est pas rassurante en soi, puisque ceux de Médine abrogent nécessairement ceux de la Mecque. Le problème, c'est que les savants qui ont fait ce travail n'ont pas supprimé les versets de la Mecque. Alors c'est un problème sans en être un, si on veut. C'est un problème intellectuel. Mais en même temps, heureusement que ceux de la Mecque sont maintenus dans le Coran, parce que des musulmans de bonne volonté, qui pacifiques, qui ne veulent pas avoir à faire la guerre ou à mentir ou autre, eh bien, peuvent se référer aux versets datés de la Mecque pour leur relation avec les non-musulmans. Mais il n'empêche que l'ensemble, abrogeant et abrogé, est maintenu dans le Coran.
Et puis on a pu ajouter cette phrase que vous avez dans votre livre, mais un nouveau problème se pose alors, puisque les versets dits abrogés n'ont pas été retirés du Coran, lequel reste tout entier, parole immuable.
Voilà, oui.
Annie Laurent, donc le titre de votre ouvrage, L'islam pour tous ceux qui veulent en parler, on fait une première pause et on vous retrouve tout de suite après.
Thank you.
Emmanuel Pella.
Cette émission Vivante Église ce matin, l'islam, le vrai du faux, avec comme invité Annie Laurent, auteur d'un ouvrage « L'islam pour tous ceux qui veulent en parler » paru aux éditions Artege. Alors je le dis pour ceux qui suivraient l'émission depuis le début ou ceux qui nous rejoignent, c'est une parole libre sur l'islam, une parole qui peut, voilà, qui peut heurter, qui peut choquer. Je laisse l'invité de ce matin, peut-être préciser ses propos quand elle dira des choses qui peuvent heurter. Enfin, en tout cas, je l'inviterai à préciser ses propos. Et puis, je voudrais aussi ajouter qu'on a fait une série d'émissions de l'année dernière de dialogue islamo-chrétien. Radio Présence essaye de tenir le dialogue, une parole de vérité sur l'islam et peut-être même l'annonce de l'évangile, y compris aux musulmans. Dans votre livre, vous avez un chapitre 3 qui peut paraître choquant pour certains, intitulé « L'islam idéologique ». Alors, est-ce à dire qu'une partie de l'islam est idéologique ou vous pensez que l'islam est en lui-même idéologique ? Et qu'est-ce que ça veut dire, Annie Laurent ?
Oui, très bien. En fait, l'islam n'est pas qu'une religion. C'est une religion, on ne peut pas le nier. Il y a Dieu, il y a les prophètes, il y a des éléments concernant la vie éternelle, ça c'est certain. Donc ça en fait bien une religion. Mais c'est aussi une idéologie, et les deux sont inséparables. C'est une idéologie dans la mesure où l'islam se présente comme un système global qui englobe tout, donc les aspects de la vie. Non seulement la vie religieuse, mais la vie sociale, la vie personnelle. Rémi Brague dit souvent, d'ailleurs je le cite, que le Coran prescrit même la manière de s'habiller pour les femmes, par exemple. Et tous les détails de la vie quotidienne sont prévus dans le Coran et dans la Sunna dont nous avons parlé tout à l'heure. Et
puis, oui, mais pour autant, comment dire, une religion peut irriguer toute la vie sans pour autant être une idéologie.
Ah, mais je suis bien d'accord. Le christianisme doit irriguer notre vie, voilà, bien alors, entendu.
Où se fait la différence ?
Mais Dieu ne se mêle pas des détails. Il ne nous dit pas comment... il ne vous dit pas, par exemple, comment vous rasez.
Est-ce à dire que vous diriez aussi du judaïsme que c'est une idéologie ? Parce que les prescriptions sont parfois précises.
C'est... Exactement. Et le Coran a repris beaucoup de choses de la loi mosaïque, comme la répudiation, le talion, la polygamie. Ça, c'est vrai. Mais nous savons que le judaïsme, enfin l'Ancien Testament plutôt, c'est la longue préparation à l'incarnation du Verbe de Dieu, à la révélation de Dieu en plénitude. Et Dieu a tenu compte des faiblesses de l'humanité. Il s'est inséré dans l'histoire humaine. Mais comment se fait-il que le Coran revienne sur quelque chose qui a été... on ne dit pas aboli, mais accompli par Jésus lorsqu'il est venu, nous dit qu'il est venu accomplir la loi par la loi d'amour qui transcende tout. Le Concile Vatican II, dans Dei Verbum, la constitution sur la révélation divine, dit bien que plus aucune autre révélation n'est à attendre après la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il y a quand même un vrai problème.
Vous avez un autre chapitre qui s'appelle Islam et démocratie. Peut-être que ça peut aider à comprendre ce que vous voulez dire par l'islam qui serait une idéologie. Vous parlez évidemment de la charia. Alors peut-être que vous pouvez préciser ce qu'est la charia et puis après on va essayer de détailler, voir quels sont ce que dit la charia du rapport aux musulmans avec le temporel et le spirituel.
Oui, alors la charia, le mot charia veut dire la voie, V-O-I-E, la voie sous-entendue sur le sentier de Dieu. Donc il s'agit d'appliquer à la lettre toutes les prescriptions qui sont dans le Coran et dans la Sunna, et comme on l'a dit, qui concernent absolument tous les aspects de la vie. Vous n'imaginez pas à quel point le droit musulman est tatillon sur ce plan-là. On utilise beaucoup d'ailleurs la casuistique. Telle situation, un cas donc, peut donner lieu à une élaboration extrêmement pointilleuse du droit musulman. Quand j'ai parlé de l'islam idéologique, là en fait j'ai voulu présenter dans ce livre les différentes branches idéologiques de l'islam. Par exemple, l'islamisme par rapport à l'islam, ça aussi c'est très important. On a l'habitude de dire que l'islamisme ce n'est pas l'islam, c'est une dérive, un accident de l'histoire, etc. Ce n'est pas juste de dire ça. Il est vrai que pendant très longtemps, lorsqu'on parlait de la religion musulmane, on n'avait qu'un seul mot, le mot islamisme. Depuis quelques décennies, et je suis d'accord avec ça, on distingue islam et islamisme. l'islam serait la dimension simplement religieuse et l'islamisme la dimension idéologique. C'est bien parce que ça permet de ne pas enfermer tous les musulmans indistinctement dans un cadre qui ne serait qu'idéologique. Donc moi, je trouve ça très bien. Mais dire que l'islamisme est étranger à l'islam, ce n'est pas correct, ce n'est pas vrai. Puisque l'islamisme, donc la dimension idéologique, s'enracine pleinement dans les textes sacrés des musulmans, vous voyez ?
Vous citez cette sourate, n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur insouciant envers notre appel de la vraie religion, entre guillemets, ça c'est la sourate 18, c'est ça ?
Oui.
Enfin 18-28. Et ensuite, une sentence de Mahomet contenue dans la sunna, l'islam domine et ne saurait être dominé.
Ah oui. Oui, justement, c'est ça qui fonde le fait que dans un pays où les musulmans sont majoritaires, l'islam doit être proclamé religion de l'État et la loi ne peut être que conforme aux prescriptions de la charia.
On entend parfois dire que l'islam a une dimension politique, c'est
Mais
ça ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Alors, est-ce à dire que en fait, les musulmans obéissent d'abord, a priori, à la charia plutôt qu'aux lois de la République ? Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet ? Parce que ce n'est pas le cas en France.
Les musulmans chez nous, bien sûr, oui. Vous voulez dire. Mais oui, mais bien sûr, ce n'est pas le cas parce que les musulmans n'ont pas le pouvoir. Ils ne sont pas majoritaires encore, du moins. Mais le projet musulman, c'est quand même d'établir le règne de l'islam dans le monde entier, bien entendu. Alors, dans l'islam, on tient compte des rapports de force. Aujourd'hui, en Europe, les musulmans sont minoritaires, mais quand même, ce projet est toujours là. Alors, bon, nous avons des personnalités comme Tariq Oubrou, bien connu, le grand imam de Bordeaux, qui dit, je dis à mes fidèles, c'est ce qu'il dit, lui, que nous devons appliquer ici une charia de minorité. Alors, c'est rassurant comme ça, a priori, mais le jour où les musulmans seraient majoritaires, ça serait forcément la charia de majorité qui s'appliquerait. Vous voyez, c'est un petit piège qui nous est tendu comme ça. Il faut être attentif à ces choses-là. Alors, par rapport à la démocratie, on voit bien que certains pays musulmans adoptent des procédures démocratiques. Il y a des élections libres, mais la démocratie dans les pays musulmans, elle doit se comprendre comme une démocratie confessionnelle et pas laïque, puisque la laïcité est un principe absent de la vision musulmane.
Est-ce que vous pouvez citer un exemple d'un régime politique qui ressemble à ce que vous venez de décrire?
L'Égypte, par exemple. C'est un régime où il y a le gouvernement, le parlement, séparation ou distinction des pouvoirs, bien entendu. Mais les députés ne peuvent pas voter des lois qui seraient contraires aux prescriptions de la charia, puisque l'islam est religion d'État dans ce pays. Voyez par exemple aussi en Algérie. En Algérie, l'islam est la religion officielle. En 1984, on a élaboré un nouveau code de la famille. Alors, on a pensé que ça allait être un élément de progrès, mais on a maintenu des prescriptions qui limitent les possibilités pour les femmes. Par exemple, la permission polygamique, elle est maintenue dans le code de droit de la famille algérien aussi. Une autre prescription qui est très... Bon, là, il s'agit de permission pour la polygamie. Mais il y a un verset qui est absolument net concernant l'héritage. Dans l'islam, la fille ne peut hériter que de la moitié de la part attribuée au garçon. Un autre exemple, l'empêchement matrimonial. Une musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman, un chrétien par exemple, sauf si le fiancé se fait musulman. Ça, c'est très clair dans le Coran, c'est la sourate 2, verset 221. On ne peut pas y toucher, vous voyez. Même des pays dits progressistes, comme la Tunisie et la Turquie, n'ont pas pu toucher à ces deux prescriptions-là.
Vous parlez aussi du rapport de l'islam à la laïcité. On avait fait une émission l'année dernière, lors de cette série, sur l'islam et le christianisme par rapport à la laïcité. Vous avez cette phrase, « Beaucoup de musulmans voient dans la laïcité une forme déguisée d'athéisme. »
Oui. Pour eux, c'est le rejet de Dieu de la cité. Évidemment, ça sert l'apologétique islamique. Le mot laïcité n'existe pas dans la langue arabe, d'ailleurs. Hein, c'est quand même significatif. Et en fait, ils ont cette vision de la laïcité aussi par notre faute. Parce que nous avons fait de la laïcité un laïcisme dans nos pays d'Europe. Donc, nous nous sommes écartés de l'enseignement de Jésus lorsqu'il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et le pape Benoît XVI a des paroles très fortes et très claires sur la question. Il dit « Nous devons promouvoir une saine laïcité avec une formule très réduite qui exprime bien la question, la saine laïcité, c'est unité, distinction. En fait, ce que le pape émérite a écrit, c'est que l'Église n'a pas à gouverner, ce n'est pas son rôle, mais l'État ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une loi naturelle.
Il y a pourtant, dans le monde musulman, des pays laïcs. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer cela? C'est-à-dire que vous citez, par exemple, l'Irak et la Syrie, mais vous dites que c'est pas tout à fait...
Oui, alors je ne dis pas laïque, je dis laïcisant. L'Irak et la Syrie sont sous le régime du Ba'ath, enfin plus maintenant pour l'Irak, depuis la chute de Saddam Hussein. C'est le parti Ba'ath, qui veut dire résurgence en arabe, un parti qui a été fondé dans les années 1940 pour promouvoir le nationalisme arabe. Cette idéologie très intéressante avait pour but de transcender les clivages confessionnels. Vous voyez, c'est-à-dire un chrétien, Michel Aflaq, qui a été le promoteur du Ba'ath, mais il est mort musulman à Bagdad. J'ai visité son mausolée. Donc, il y a quand même une question qui se pose là. Alors, donc, ce ne sont pas des régimes laïcs au sens occidental du terme, dans la mesure où ils n'ont pas instauré une séparation entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. En Irak, sous Saddam Hussein, l'islam était religion d'État. Mais il y avait une grande ouverture, c'est vrai. On a eu par exemple Tariq Aziz, vice-président de la République, un chrétien chaldéen, ce qui est exceptionnel dans les pays musulmans, qui avait donc une fonction très importante. L'autre exemple que je donne aussi, c'est la Turquie, qu'on donne en général. On fait la promotion de la Turquie comme un grand pays musulman laïque. Alors, il faut voir la contradiction dans les termes aussi, musulman laïque. Mais la laïcité mise en place par Atatürk, avec la création de la République turc en 1923, n'a pas séparé les deux dimensions, temporelles et spirituelles. En fait, Atatürk a placé la religion musulmane sunnite, qui est celle de la majorité du peuple turc, sous la tutelle de l'État. Vous voyez, donc il y a un organisme rattaché au Premier ministre qui gère tout ce qui relève du culte musulman sunnite. Et les communautés chrétiennes qui sont présentes en Turquie, il y en a deux seulement qui sont reconnues, mais avec des spoliations, des discriminations incessantes. Dans les années 1980, le régime turc a fermé d'autorité les séminaires de formation des Arméniens apostoliques et du patriarcat œcuménique de Constantinople. La condition pour que ces séminaires soient réouverts, c'est que la formation de ces futurs prêtres soit soumise au contrôle de l'État, comme l'islam sunnite, vous voyez, mais c'est impensable. Donc, on se trompe quand on voit la Turquie comme un pays authentiquement laïque.
Vous parlez enfin, je dis enfin parce que je vois le temps qui passe, donc il nous reste juste 2-3 questions pour cette deuxième partie. Vous parlez de la taqiyya. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la taqiyya et ses conséquences? Je recherche le passage, je vais vous aider en vous citant. Allez-y.
Le mot taqiyya veut dire dissimulation. Donc, il y a la possibilité pour les musulmans, lorsqu'ils sont en position de faiblesse, de dissimuler, voilà, c'est le mot, leur croyance, leur identité, etc. Alors, à l'origine, la taqiyya était surtout pratiquée dans les minorités musulmanes, notamment le chiisme. Le chiisme qui ne représente que 7 à 8% du monde musulman, le sunnisme étant l'immense majorité des musulmans dans le monde. Les trois autres pourcents, ce sont les alaouites et les druzes notamment, qui sont des dissidences du chiisme. Alors ces minorités ont été affrontées à des accusations d'hérésie, considérées comme illégitimes, et donc ont été obligées de composer, si vous voulez, lorsque elles sont en position de faiblesse.
Alors, j'ai retrouvé la sourate, je vais vous aider. Oui. Que les croyants, non pas que vous ayez besoin d'être aidés, mais peut-être vous ne pouvez pas vous souvenir de toutes les sourates, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants, quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux.
Voilà, c'est ça. Donc c'est pour conserver ses propres convictions que publiquement, on est invité à... On est autorisé, autorisé, à travestir sa véritable identité.
Mais pourquoi vous le citez? Parce qu'à la limite, ça peut se comprendre dans des situations particulières que des croyants se comportent comme ça. Pourquoi vous citez la taqiyya?
Oui, vous avez raison, votre question est très bonne. Mais c'est parce que dans l'islam, on n'a pas la notion de gratuité du témoignage et d'authenticité. Si vous voulez, nous, comme chrétiens, nous n'avons pas à travestir ce que nous sommes, notre identité et notre foi, pour plaire ou pour échapper à la persécution. Ce n'est pas possible, sinon on n'est pas en vérité avec nous-mêmes. Et dans l'islam, non, ben voyez, c'est autorisé parce qu'il faut protéger son identité. Et donc, en cas de persécution, ben on se dit sunnite, par exemple.
Enfin, j'aimerais que vous nous parliez un peu de la liberté de penser et entre autres la liberté de choisir en fait sa religion. Que dit le Coran de cela? Vous avez cité ce verset, pas de contrainte en religion, donc c'est 256. A priori, du coup, c'est semble-t-il, comment dire, et laisser liberté aux musulmans d'être, comment dire, aux personnes d'être musulmans ou pas.
Oui, non, là, il faut être clair, c'est formellement, il est formellement interdit à un musulman de renoncer à sa religion. Parce que l'islam se considère comme la religion native, la religion que Dieu a donnée à l'homme dès la création d'Adam, la religion adaptée, appropriée à la nature humaine. Ça fait partie de sa nature, vous voyez. Et donc, renoncer à l'islam, eh bien, ce n'est pas pensable. D'ailleurs, les grandes organisations musulmanes dans le monde, même celles qui ont signé les grandes déclarations universelles des droits de l'homme ont publié leur propre déclaration musulmane des droits de l'homme, dans laquelle il est dit que, c'est celle de l'Organisation de la coopération islamique, par exemple, qui représente 57 États musulmans. Il est dit que la religion musulmane étant celle que Dieu a voulu pour l'homme, eh bien, il n'est pas possible aux musulmans de renoncer à sa religion. Vous voyez, donc, ce pas de contrainte en religion, il est trompeur en réalité. On peut y voir un exemple de taqiyya pour séduire le monde non musulman. Vous voyez, pas de contrainte en religion, ben, c'est très bien, on est libre, mais pas du tout. Les commentateurs de ce verset disent deux choses. Qu'il a été abrogé par le verset 5 de la sourate 9, que vous avez cité tout à l'heure, qui est le fondement du djihad, donc, parmi les derniers versets censés avoir été révélés, donc qui abroge les versets plus tolérants. Et puis, pour ces commentateurs, en fait, le pas de contrainte en religion signifie qu'il n'est pas possible d'interdire à quelqu'un de se reconnaître musulman. Vous voyez ? Il n'est pas possible d'interdire à quelqu'un de se reconnaître musulman. Voilà. Donc,
pourtant, est-ce que les musulmans de France acceptent la vie républicaine française et donc ce qui va avec? Est-ce que les grandes organisations comme l'UOIF et autres n'acceptent pas, du coup, par là même, entre autres, la liberté de penser ou de changer de religion?
Mais voilà ce qui s'est passé il y a environ 20 ou 30 ans. Jean-Pierre Chevènement avait été chargé par le gouvernement de négocier avec des musulmans, enfin de dialoguer, pour mettre en place une structure représentative des musulmans de France. Alors, le ministère de l'Intérieur, il était à l'époque chargé de ce ministère, Chevènement, a élaboré un projet de charte soumis aux musulmans. Et dans cette charte, il y avait la mention selon laquelle, si elle avait été adoptée, les musulmans s'engageaient à respecter la liberté de conscience jusqu'à la possibilité pour un musulman de renoncer à sa religion d'origine. Ça a suscité un tollé, notamment de la part de l'UOIF, qui est l'organisme représentatif des frères musulmans en France. Et donc, du coup, le gouvernement a reculé et on a supprimé cette clause. Qui est quand même, franchement, c'est un peu gros dans un pays dit de liberté comme le nôtre. Reculer comme ça, ça ne va pas du tout. Et c'est ainsi. Alors on va voir maintenant, puisque le chantier est remis au goût du jour, encore avec Jean-Pierre Chevènement, on va voir si le gouvernement va oser exiger des musulmans de France le respect intégral de la liberté de conscience. Ça sera un test décisif, ça.
Annie Laurent, l'islam pour tous ceux qui veulent en parler, paru aux éditions Arthège. On fait une deuxième pause et on retrouve tout de suite après. Exultate, jubilate, via vobis. Islam, le vrai du faux, avec Annie Laurent ce matin, auteur d'un ouvrage intitulé « L'islam pour tous ceux qui veulent en parler mais ne le connaissent pas encore », paru récemment aux éditions Artege. Dans la fin de cette émission, Annie Laurent, j'aimerais que vous nous parliez de, comment dire, du rapport des musulmans ou de ce que dit le Coran, du judaïsme et des chrétiens, peut-être pour essayer de trouver ensemble une manière juste, selon vous, de se comporter avec les musulmans. Commençons peut-être par les juifs, par nos frères aînés. Que dit le Coran exactement des juifs ?
Eh bien, c'est ce qu'on avait dit un peu dans la première séquence de l'émission, c'est que le Coran accuse les juifs d'avoir falsifié la Torah apportée par Moïse, qualifié de prophète dans le Coran.
Mais c'est-à-dire que le Coran reconnaît que Dieu a parlé quand même au peuple juif.
Oui, tout à fait.
Il y a cette phrase, ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé, je vous ai préféré à tous les mondes. Voilà, le cite parce que vous le citez. Hein,
oui. C'est tout à fait ça. Seulement, le Coran accuse les juifs d'avoir falsifié la Torah, sans donner de précision sur le contenu des falsifications. Et donc, c'est un regard négatif, en réalité. Quand on lit les histoires à notre disposition pour concernant les origines de l'islam, on se rend compte qu'il y a un contentieux plus politique que religieux entre juifs et musulmans. Quand Mahomet vivait à Médine, pendant la deuxième partie de sa vie publique, il s'était érigé comme chef, on l'a dit tout à l'heure, législatif, d'État, etc. Les juifs, au début, d'après la tradition, ont bien accueilli Mahomet à Médine. Il y avait trois grandes tribus juives dans cette ville. Seulement, ce qu'on nous dit, c'est que 17 mois après, les Juifs n'ont pas voulu suivre Mahomet, n'ont pas voulu lui obéir, adhérer à l'islam tel qu'il le prêchait. Donc, c'est la rupture. Ça s'est très mal terminé. Les Juifs de Médine ont été spoliés de leurs biens immobiliers, chassés de la ville. Et le dernier épisode dramatique, 800 hommes ont été assassinés sous les yeux de Mahomet, jetés dans une fosse commune, leurs épouses et leurs enfants répartis comme esclaves ou comme pour les femmes mariées de force à des musulmans. Donc là, il y a un problème essentiellement politique avec le judaïsme. Après, concernant le christianisme, les reproches que le Coran fait au christianisme sont des reproches essentiellement religieux, ou doctrinaux si vous voulez, c'est plus juste, doctrinaux. Donc la divinisation de Jésus-Christ, le Dieu trinitaire donc, qui nous est reproché. Le Coran dit à plusieurs reprises, ne dites pas trois, ce sera mieux pour vous. Comment Dieu aurait-il un fils? Ce n'est pas possible. Il faut savoir que dans l'islam, on envisage la généalogie sous l'angle biologique seulement et non pas la fécondité spirituelle. Voyez, donc, si Dieu a un fils, comme le chrétien le disent, ça veut dire qu'il a besoin d'une épouse, une déesse ou autre. Alors, les choses ne sont pas très claires par rapport à ça. Il est question d'une triade dans le Coran. La triade, ce serait le Dieu un auquel les chrétiens sont accusés d'associer Marie et Jésus. Voyez, alors c'est une... Pour les musulmans, c'est blasphématoire. Dieu est un et seulement un. Il n'est pas un et trine.
Sourate 5, 73. Oui, ceux qui disent Dieu est en vérité le troisième de trois sont impies. Il n'y a de Dieu qu'un Dieu unique.
Alors, quand on dit unique dans le Coran, ça veut dire un. Un et seulement un. Pour nous, unique, nous croyons en un Dieu unique aussi. Mais c'est un Dieu un et trine, un Dieu trinitaire. Et la différence est très importante. Hein. On parle d'unicité dans le Coran, nous parlons d'unité. Mais ce Dieu, notre Dieu trinitaire, eh bien, il n'est pas isolé. Ce n'est pas un Dieu de solitude. J'aime bien dire ça. Dans le Coran, c'est un Dieu de solitude. Un Dieu qui n'est pas pluriel en lui-même et qui ne dialogue pas avec l'humanité. Le Dieu du Coran, c'est très important, reste transcendant et seulement transcendant. Il ne se mêle pas à l'histoire des hommes. Il dicte sa volonté, sa loi, mais il ne se révèle pas. Il ne dit pas aux hommes qui il est. Ça, c'est la différence capitale entre islam et christianisme. Les musulmans ne connaissent pas Dieu et ils ne peuvent pas connaître Dieu parce que Dieu ne se révèle pas, ne se fait pas connaître.
Alors, un peu plus loin dans votre ouvrage, vous dites la chose suivante. La croyance en la Trinité est le seul péché irrémissible selon le Coran. Irrémissible, pardon. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il pardonne à qui il veut des péchés moins graves que celui-ci. Celui qui associe quoi que ce soit à Dieu commet un crime immense. Sourate 4, 48. J'ai souvenir d'une émission l'année dernière. Justement, je ne me souviens plus, enfin dans cette série qu'on avait fait de dialogue islamo-chrétien, d'une personne musulmane en plateau, qui expliquait que le salut était donné en fait à ceux qui faisaient le bien, et ceux musulmans ou pas. Et ça rentre a priori en contradiction avec ce que vous dites là. Alors comment s'y retrouver ?
En fait, il est incorrect de dire que l'islam est une religion de salut ou de rédemption. Pourquoi ? C'est que le Coran fait l'impasse totale sur la réalité du péché originel. Nous savons que le mal dans le monde est la conséquence directe du péché de nos premiers parents.
Parce qu'ils n'ont peut-être pas la même interprétation, sinon c'est...
Non, mais c'est le texte, là, je parle du texte. Il n'y a pas du tout mention du péché originel.
Oui.
Il y a une désobéissance d'Adam, mais Adam se repent et Dieu remet tout dans l'ordre qu'il l'a voulu. Donc ça pose la grave question du mal. D'où vient le mal dans l'islam ? La question n'est pas tranchée, mais je connais des auteurs musulmans que j'ai lus, donc des livres récents, qui disent que le mal comme le bien vient de Dieu. Vous voyez, c'est extrêmement grave. Donc, puisqu'il n'y a pas le péché originel, il n'y a pas de nécessité de rédemption, bien entendu. On n'est pas sauvé dans l'islam, on est guidé. Et on n'a pas besoin d'être sauvé, on a besoin d'être guidé. Et pour être guidé, c'est le Coran qui se définit lui-même comme une guidance. On est dans une logique vraiment différente de la logique chrétienne, voyez. Alors nous savons que, bien sûr, Dieu aime les musulmans, et nous savons aussi, enfin nous le supposons, que beaucoup de musulmans sont sauvés. Mais ils ne sont pas sauvés par le Coran, ils sont sauvés par Jésus-Christ, qu'ils le sachent ou pas, c'est ainsi.
Mais quid de cette sourate que je citais, les chrétiens, pour en fait la majorité des musulmans, sont, à partir du moment où ils croient en fait en un Dieu trinitaire, sont voués à l'enfer pour l'éternité.
Mais bien sûr, oui.
Il
n'y
a
oui.
pas des pensées assez variées sur ce sujet
en
islam.
Non. Le Coran interdit à Dieu la possibilité de pardonner le tawhid, c'est-à-dire la croyance en un dieu, la croyance dans l'associationnisme, le dieu trinitaire, associé au dieu unique deux autres divinités. C'est un péché, c'est le péché irrémissible.
Alors, on me dit au micro qu'il y reste peu de temps. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle d'un dernier sujet, peut-être plus que l'attitude que les chrétiens doivent adopter face à l'islam. Ça, on reverra peut-être à la lecture de votre ouvrage. Vous dites qu'il y aurait un sursaut de conscience dans l'islam. On en parle beaucoup en France. On a l'impression qu'il y a énormément de gens qui œuvrent pour cela, en tendant à favoriser un certain islam. On entend même des musulmans dire, en fait, il n'y a pas d'islam, il y a des islams, et que aujourd'hui serait le grand rendez-vous peut-être de l'histoire pour les musulmans de travailler à, comment dire, à une forme de critique en fait, ou à introduire l'esprit critique quant au rapport au texte, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est ? Qu'est-ce que vous voyez comme signe de ce sursaut de conscience dans le monde musulman ?
Oui, vous savez, on dit souvent que d'un mal peut sortir un bien, excusez-moi. que d'un mal peut sortir un bien. L'extrême violence qui déchire le monde musulman aujourd'hui, avec les horreurs qui sont commises par des mouvements comme Daesh, Al-Qaïda et d'autres encore, peut amener effectivement un certain nombre de musulmans, et notamment on compte beaucoup sur les intellectuels, à revoir leur manière d'envisager leur religion. Alors ça, c'est prometteur, bien entendu. Je cite aussi dans mon livre le maréchal Sisi, le chef de l'État égyptien, qui le 28 décembre 2014 a prononcé un discours que je qualifie d'historique devant la grande université d'El-Azhar, qui a un grand rayonnement auprès du monde sunnite.
En Égypte, au Caire.
En Égypte, voilà. Le maréchal Sisi a demandé au cadre d'El-Azhar de travailler à expurger les textes sacrés de tout ce qui relève de l'idéologie. Franchement, c'est un discours extrêmement courageux et novateur. Alors, depuis lors, c'est vrai, des congrès sont tenus à El-Azhar pour essayer de travailler dans le sens demandé par le maréchal Sisi. Nous avons en Europe aussi des musulmans qui essaient de promouvoir une réforme de l'islam. Alors, c'est vrai qu'il y a des islams dans la mesure où tous les musulmans ne suivent pas tous les principes, tous les préceptes du Coran. Par exemple, la violence ou la taqiyya dont on a parlé, le mensonge, etc. Mais n'empêche que tous les musulmans, dans la mesure où ils croient dans leur religion, adhèrent au Coran incréé. Sinon, ils ne sont plus vraiment musulmans. Et on se heurte toujours là à cet obstacle structurel et à l'autre obstacle que j'ai déjà mentionné, l'absence de magistère authentique dans l'islam. Mais n'empêche qu'il est important de suivre ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça vers un sursaut de la conscience musulmane. Peut-être il va y avoir du nouveau.
Pour en France, vous diriez
y a... Non, je parle du monde, là, du
oui,
monde.
Mais pour la France, vous citeriez quelques figures comme ça qui pour vous
oui,
sont...
Oui, il y a Malek Bezou, par exemple, que je connais bien, hein, avec qui je suis en relation. Il y a aussi Razika, une musulmane française qui vient de publier un petit livre très intéressant sur la nécessaire réforme de l'islam.
Ghaleb Benchek aussi, donc, vous citez.
Alors, Ghaleb Benchek... bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut penser de lui. Il fait toujours très bonne figure dans les dialogues publics. Moi, je le connais personnellement aussi, mais il a l'art aussi d'esquiver les questions difficiles. Hein. Je ne sais pas si on peut le considérer comme un authentique réformateur. Bon, je n'irai pas jusque-là pour lui. C'est dommage parce qu'il a une très grande culture. Hein. Il connaît très bien l'Évangile, par exemple. Il le cite en public. Mais il faut maintenir cette espérance que peut-être l'extrême violence d'aujourd'hui pourra ouvrir la voie à des réformes vraiment fondamentales qui permettront aux musulmans de s'adapter aux conditions du monde actuel. Mais à mon avis, ça va prendre beaucoup de temps. Alors, pour terminer, je dirais que nous devons, nous, les chrétiens, être à côté des musulmans, les aider à faire cette démarche. Si nous aimons vraiment les musulmans, ce que nous sommes invités à faire, bien entendu, Dieu nous demande d'aimer les musulmans. Il ne nous demande pas d'aimer systématiquement l'islam. Eh bien, nous devons être à leur côté. Comme le pape François le dit, ça me plaît beaucoup cette formule, nous devons être comme un hôpital de campagne auprès des communautés qui souffrent. Et pour moi, le monde musulman souffre énormément aujourd'hui de son incapacité structurelle, comme on l'a dit, de sortir du marasme dans lequel ils sont. Donc, accompagnons les musulmans et aidons-les en les aimant à revoir leur manière de vivre la religion et surtout de la comprendre, en utilisant notamment la raison.
Merci beaucoup Annie Laurent. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'Islam pour tous ceux qui veulent en parler, paru aux éditions Artege, et puis un autre livre paru aux éditions Salvator pour votre autre spécialité, Les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître, avec ce sous-titre, Une vocation pour toujours, paru aux éditions Salvator. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.